Une heure de culture, d'actu, dans la bonne humeur sur Transistor.
C'est quand ?
C'est en ce moment. Alors bienvenue dans En ce moment, le journal de la rédaction. On commence tout de suite avec l'actualité de ce mercredi 25 février. Elle vous est présentée par Thomas. Bonjour Thomas.
Bonjour Marie, bonjour à tous.
Donc là, vous êtes...
À la une de l'actualité de ce mercredi 25 février, la publication à 18h des chiffres du chômage pour le mois de janvier dernier. Dans un contexte social difficile, cela n'aura échappé à personne puisque fin 2014, 3 millions de demandeurs d'emploi étaient inscrits sur les listes de Pôle emploi.
Et alors du coup Thomas, l'année 2015 sera celle de l'inversion de la courbe du chômage ?
Bon, alors du côté du ministère du Travail, on est prudent. Marie, François Rebsamen espère une diminution du nombre des chômeurs, mais pas avant la fin de l'année.
D'accord, donc les chiffres qui seront publiés à 18h, je crois, risquent de pas forcément être très bons.
Oui, mais le ministre garde espoir, tablant sur l'effet d'une croissance qui pourrait atteindre plus d'1% en 2015, sur l'effet des baisses conjuguées de l'euro et du prix du pétrole également, ou encore sur celui du plan Juncker d'investissement européen.
Et du côté des réformes ?
Alors selon l'INSEE, le pacte de responsabilité et de solidarité voté l'année dernière devrait avoir un impact positif cette année en favorisant la création de 80 000 emplois. Dans la même optique, le Premier ministre Manuel Valls reçoit aujourd'hui à 15h les leaders de 3 organisations patronales et de 5 syndicats au programme la modernisation du dialogue social, Marie.
Ah oui, la modernisation. Et quel rapport avec l'emploi ?
Bah alors, l'objectif, Marie, c'est de simplifier les obligations qui pèsent sur les entreprises de plus de 50 salariés afin d'inciter les TPE, les PME à franchir ce seuil et à embaucher.
Ah oui, d'accord. Et comment est-ce qu'on fait ?
Alors, dans les entreprises, je t'explique, de plus de 50 salariés, le dialogue social, il passe par au moins 3 instances représentatives différentes. L'idée, c'est de simplifier tout ça par une extension de la délégation unique du personnel qui existe déjà de façon optionnelle dans les entreprises de 50 à 200 salariés. Elle regroupe les activités des délégués du personnel et du comité d'entreprise. Et il serait question, Marie, de permettre aux entreprises jusqu'à 300 salariés d'en bénéficier et surtout d'y inclure le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail auxquelles les syndicats et les salariés sont très attachés.
Alors Thomas, dans le reste de l'actualité en France, une apparition et une parution ?
Oui, alors on commence par l'apparition, si tu veux bien, celle de drones dans le ciel parisien.
Ah, encore ?
Et oui, 2 ou 3 appareils ont été aperçus hier dans la nuit, dans le secteur de la place de la Concorde à Paris, alors même qu'au moins 5 drones avaient déjà survolé la capitale dans la nuit de lundi à mardi. Une cellule d'enquête a été mise en place, mais les investigations s'avèrent difficiles.
Et de l'apparition à la parution, Thomas, c'est une parution très attendue, je crois.
Fond rouge, un chien et dans sa gueule un numéro de Charlie Hebdo, une meute enragée qui lui court après et certains visages qui se dégagent. Marine Le Pen, Nicolas Sarkozy, bref, c'est reparti comme c'est écrit en une du journal le plus attendu du jour, une une signée Luz, celle du numéro de Charlie Hebdo, donc vous l'aurez compris, celui d'après. D'après les enterrements, d'après ce numéro si particulier, surtout tiré à 8 millions d'exemplaires où les morts dessinaient encore. Et puis, celui d'après les attentats de Copenhague qui sont venus rappeler que la menace était toujours là un mois et demi après.
D'accord, donc le mercredi 14 janvier dernier paraissait le numéro des survivants.
Oui.
Et aujourd'hui, je crois que c'est le 1111e...
1179e exactement.
Et donc c'est le retour surtout du rythme hebdomadaire pour la publication.
Oui, et un retour sans concession, Marie. C'est ce qu'avait promis lundi dans un tweet l'urgentiste et chroniqueur Patrick Peloux. Il n'a pas menti à 14h23 dans sa revue de presse. Clément vous en dira plus.
Voilà, ce sera du côté des kiosques. Et après les sorties en kiosque, justement, les sorties cinéma.
Et oui, c'est aujourd'hui que sort en France Birdman, le grand vainqueur de la 87e cérémonie des Oscars. Dimanche dernier, le film a en effet décroché le prix du meilleur scénario original, de la meilleure photo et surtout celui du meilleur film et du meilleur réalisateur pour Alejandro Iñárritu, qui a dédié son Oscar à tous ses compatriotes mexicains qu'ils vivent au Mexique ou qu'ils aient immigré aux États-Unis.
Oui, mais pas de spoiler, on en reparle tout à l'heure avec le journal de la culture par Pauline et Mathilde. Alors, tu évoques à l'instant le Mexique, les États-Unis. Si on allait voir ce qui se passe dans le monde en ce mercredi 25 février.
Alors, Amnesty International vient de publier son rapport annuel et tire la sonnette d'alarme. 2014 fut, je cite, une année noire. C'est même la crise humanitaire la plus grave qu'on ait connue depuis la Seconde Guerre mondiale, indique Geneviève Garrigós, la présidente de l'ONG en France. Pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, le monde compte plus de 50 millions de personnes déplacées. Parmi ces réfugiés, quelques 4 millions de Syriens qui ont été chassés de leur pays par une guerre qui a fait plus de 200 000 morts, Marie, depuis 4 ans.
Ouais, beaucoup de pessimisme. Donc, un rapport qui souligne, enfin, j'ai bien compris, l'explosion du nombre de civils morts durant l'année dernière.
Oui, c'est ça. En juillet 2014, l'offensive de l'armée israélienne, par exemple, contre Gaza, elle a coûté la vie à 2000 Palestiniens, dont 1500 civils, des femmes, des enfants. En République centrafricaine, les violences intercommunautaires, elles ont fait 5000 morts. Et on pourrait, Marie, multiplier les exemples hein, comme ça. Le rapport, il constate surtout la montée en puissance de groupes armés comme Boko Haram, comme l'État islamique. Et pour Amnesty, des groupes armés de ce type, eh bien, ils ont commis des atrocités dans au moins 35 pays en 2014.
Oui, mais Amnesty pointe aussi le recul de la liberté d'expression dans 3 pays sur 4 et l'augmentation des violences policières. Et là, je crois que la France est quand même sérieusement épinglée de ce côté-là.
Ben oui, en France, les étrangers et les Roms sont les premières victimes des manquements aux droits de l'homme selon l'ONG. Dans le même genre, il y a quelques minutes à 14h, vient de s'ouvrir le procès en appel qui oppose à l'État français 13 personnes qui estiment avoir été victimes de contrôles de police au faciès. Ils avaient été déboutés en première instance en 2013, Marie.
D'accord. Et maintenant, du côté de l'Angleterre et de l'Ukraine, tu nous emmènes ?
Oui, c'est ça. Le Premier ministre anglais David Cameron annonçait hier l'envoi de personnel militaire pour fournir des conseils et former l'armée ukrainienne dans le domaine du renseignement, de la logistique, des soins médicaux, dans un contexte où, en Ukraine, malgré le cessez-le-feu, il est difficile d'entrevoir une accalmie dans l'est du pays.
Merci Thomas. Alors on quitte maintenant l'actualité française. On retrouve Quentin, notre correspondant à l'étranger.
Bonjour Marie. Chers auditeurs, je dois ici vous faire une confidence. Alors qu'éprouvant dans l'intimité de ma chair en janvier, aux côtés de mes compatriotes, l'intensité de ce que l'on appelait pudiquement les événements de France, je me suis dit finalement, mon gars, je crois que pour ta chronique, tu vas être dans la merde. Dans la merde, parce que pour trouver une bonne nouvelle après la puissance de l'esprit du 11 janvier, cet esprit qui, dans la tourmente, a pris à bras le corps la douleur et la peur d'un peuple pour y faire jaillir l'espérance et l'unité, eh ben, va falloir chercher. Il va falloir chercher à tel point que je pris la résolution de prendre du recul, de voyager. Je connus alors la mélancolie des paquebots, l'effroi réveil sous la tente, ainsi que l'étourdissement des paysages et des ruines. En gros, pour arrêter de faire du mauvais Flaubert, j'ai fait le bouseux dans les grottes, le temps de trouver une idée. Et enfin, mes yeux s'ouvrirent. Étonné, je me levais vite, comme un marin qui tout à coup voit terre. J'exultais, car je la voyais. Elle était là, devant la lumière. Seigneur, oui, la bonne nouvelle. Dans le journal du Corse Matin, où 3 chiens ont été secourus, écoutez bien, mardi 17 février, par des pompiers héroïques dans la vallée de l'Ortolo, au sud de la Corse. Voici le témoignage de l'un des pompiers corses, l'héroïque Toumé.
Oui, alors, nous étions à la caserne du village. On nous a appelés vers 2h, 2h30. Oui, alors, oui, monsieur, bonjour. Écoutez, monsieur, on ne peut pas partir maintenant. C'est la sieste, vous n'y pensez pas. Vous êtes fous. On partira vers, nous partirons 500 et par un prompt renfort. Ah, on était 3 à l'arrivée. Les autres, ils se sont arrêtés au port pour aller boire un coucher d'aide. Mais passons. Alors on arrive, on voit les chiens en haut de la montagne, coincés près de la falaise. Ah, il fallait monter. On leur a dit de sauter, c'était plus facile, mais ils voulaient pas. Et puis bon, finalement, on en a eu marre, va faire un coup loin. On a attendu que l'hélicoptère fasse le boulot. Et puis bon, nous aussi, on est allé chez Dédé.
Ouais, bien, merci beaucoup Quentin pour cette bonne nouvelle corse, pour le moins fondamentale. On se demande vraiment comment on aurait pu vivre sans. Bon, la vraie bonne nouvelle aujourd'hui, c'est qu'Agère est absente. Parce qu'elle va tout déchirer à son DS de latin. Agère, on t'embrasse. Bon, allez, à venir sur Transistor d'autres bonnes nouvelles, j'en suis certaine, avec le point économie de Lino. Alors Lino, il y a quelques jours c'était la Saint-Valentin et je crois que tu souhaitais participer à cette fête.
Oui Marie, j'ai une déclaration d'amour à faire à quelqu'un de très spécial. Ma chérie, grâce à toi je maximise ma fonction d'utilité intertemporelle. Le panier de caractéristiques que tu m'offres est parfaitement tangent avec mes courbes d'indifférence. La plus belle déclaration d'amour que je puisse te faire est que tu annules la dérivée première de mon lagrangien en fonction des caractéristiques de ma fonction d'utilité. Oui, c'est beau, hein. Nous avons atteint l'optimum parisien sans même avoir besoin de l'État. Tu te rends compte? C'est le premier théorème de l'économie du bien-être. J'ai longtemps cru que tu étais un bien substituable, mais en fait, nous sommes peut-être complémentaires.
Ah, je vois que vous êtes sur un petit nuage.
Ah Marie, je reconnais que notre amour n'est pas toujours un équilibre de nage parfait en sous-jeu. Quand il est question de sortie, il nous arrive même d'aboutir à une issue sous-optimale. Prenez hier soir, nous devions nous retrouver pour un spectacle. Mes préférences se portent vers le foot, j'aime le foot. Et elle, elle préfère la danse. Mais surtout, nous préférons être ensemble. Résultat, hier soir, j'étais à la danse, elle au foot. Je me suis endormie, elle s'est gelée.
Ah, ça, la guerre des sexes. Hein. Moi, je préfère jouer à Matching Pennies. Un conseil entre nous, vous auriez dû vous lier les mains.
Ah Marie, tu sembles avoir beaucoup apprécié 50 nuances degrés.
Oh bah oui.
Ou alors tu es monétariste. L'un n'empêchera d'ailleurs pas l'autre. Nous, nous sommes plutôt partisans de la discrétion. D'ailleurs, nous sommes un couple égalitaire, seules les stratégies sont dominantes chez nous. Notre couple est en plein dans la valeur de chapelet. Nous avons atteint le sommet de la colline des plaisirs. Dès lors qu'on élimine les fluctuations cycliques de notre relation, l'équilibre stationnaire dans lequel se trouve notre couple détermine notre chemin de croissance de longue période.
Ah, merci Lino. Alors, je ne sais pas si ton couple est mondialisé, mais à Transistor, l'international, ça nous tient vraiment à cœur. C'est l'heure de la météo de Caroline.
Ich bin nicht verrückt. Ich weiß, dass die Welt nicht existiert, um mich zu unterhalten. Aber im dritten Jahr, wo ich mich um den Wetterbericht kümmere, scheint alles ein bisschen langweilig. Und da ich sowieso sagen kann, was ich will, da nur 5% der Zuhörer mich verstehen werden, habe ich heute entschieden, aus cette fin de février, je veux de la météo intéressante, des extrêmes, Vent, Glace, Pluie, divertissez-moi, mes mignons. And who better to put on a show than the United States? I'm telling you, American weather never disappoints. Remember January 29th when some lunatic called Will God climbed the frozen Niagara Falls? Winter means business in North America, and February hasn't been kind to them. The culprit was a winter storm called Pandora, which dealt both north and south in icy rain. Is it gone? Yep, just taking the last leak of a Newfoundland as we speak. Are things going to look up? Hell no! Not only is her little brother Quantum following hard on her heels and casting a pile of snow and sleet from Dallas to Shreveport, but after a short reprieve, a new system of low pressure is filtering in from the Arctic through Canada, where Quebec and Ontario are looking at minus 35 degrees Celsius all lower. Americans shouldn't take the road, but Canadians shouldn't even leave their houses unless they want to become adorable icicles. Then again, they are prepared for this kind of weather, whereas Texans sure they aren't. If even the South ain't safe, this country is going to the Turks, I'm telling you. Pero a pesar de su nombre, el sur de los Estados Unidos está situado en el hemisferio norte. Y claro que si consideramos, por ejemplo, Santiago de Chile, el tiempo está soleado y la temperatura aumenta de 17 grados esa mañana hasta 28 grados en la tarde. Si cambiamos de continente, España tiene un poco de lluvia al momento en el norte, pero mucho sol también, con 14 grados en Madrid o Córdoba. Encontrado en Italia con la perturbación, hay lluvia y nieve. Der Rest von Europa ist auch ziemlich uninteressant. Neue Wolken und Regen in Deutschland, Schnee in der Schweiz, windig in Schottland, nass in England, Winter eben. Et le reste du monde. Dobre dien. какая сегодня погода? Холодно и ветрено в Москве. Duh, I mean, sure, it's minus 29 in Yaskos, but c'est normal en Russie. Descendons plus bas. Ni hao, xian sa bu man lai gan ni sha chung ko. Beijing he Shanghai duo yun. Dan shu Beijing zhu you neng sha pa du. A Shanghai chue you a she qi du. Comme ton homme, je degue le degue pendant qu'on s'est dégué, pas d'accord, un dagain, t'es dégué, et dégué, son dagain. Je degue, pas d'agar, et degue, en dagain, à dagam, et dégué, et dégué, degue. Bye, dagaï.
Et ça, c'est la Caroline quand elle est normale. Chers auditeurs, restez sur Transistor. À venir, le quart d'heure sérieux, c'est l'heure du café avec nos éditorialistes.
Alors, avant les au revoir, on a juste le temps de prendre un café et l'addition.
Et si vous pensez que nos jingles, eux, ne sont pas sérieux, attendez de voir dans une demi-heure. Bref, regard sur l'actualité internationale. On commence avec toi, Céline.
On part en Italie un an après l'accession au pouvoir de Matteo Renzi. Le plus jeune chef de gouvernement élu à la tête d'un pays européen, celui qui se surnommait le démolisseur, a succédé il y a un an à Enrico Letta. Il se donnait alors 100 jours pour redresser l'Italie. Un an après, quel premier bilan tiré de sa prise de pouvoir ? Du côté de la politique intérieure, les réformes tant attendues des institutions, de la magistrature ou de l'administration sont encore en chantier, dans une situation économique globalement très morose. L'Italie vit toujours sa plus longue période de récession depuis l'après-guerre, son chômage dépasse les 13% et sa dette publique s'aggrave. Matteo Renzi a pourtant réussi à imposer son Job Act, une réforme du marché du travail qui assouplit par exemple les mesures de licenciement, réforme qui a créé des divisions au sein de son propre parti, le Parti démocrate. Il a encore l'ambition de mettre fin au bicamérisme italien par une réforme du Sénat, fort de l'absence d'opposition organisée. Car si Matteo Renzi apparaît comme l'homme fort de l'Italie aujourd'hui, et que son parti de centre-gauche est bien le seul parti de gauche au pouvoir encore largement crédible en Europe, c'est qu'il a face à lui un effondrement de la droite italienne, et notamment du parti de Silvio Berlusconi, Forza Italia, au plus bas dans les sondages, à 12%. Récemment, le parti s'est d'ailleurs fait dépasser pour la première fois par l'extrême droite de la Ligue du Nord. Enfin, la gauche de la gauche, avec 4 à 5% de popularité dans l'opinion, désespère de voir se profiler un jour un scénario comme en Grèce. Excellent tacticien politique, Matteo Renzi a su tirer avantage du rapport de force en faisant récemment élire son candidat au poste de président de la République italienne sans passer par un compromis avec Berlusconi. Au niveau européen, lors de ses 6 mois à la tête du Conseil, Renzi a réussi à faire nommer Federica Mogherini, ministre des Affaires étrangères, propulsée sans expérience à 41 ans. En pointe sur le dossier libyen, moins sur l'Ukraine en raison des liens commerciaux très forts avec la Russie, l'Italie reste surtout préoccupée par la Méditerranée. Ses abords, ce sont en effet les rives libyennes, ces mêmes rives d'où lui arrivent chaque jour toujours plus de réfugiés cherchant à fuir les chaos libyens et syriens. Elle a même proposé récemment de participer avec 5000 hommes à une force internationale ONU pour réduire la guerre civile, une proposition rejetée à New York. L'objectif, c'est aussi d'arrêter la progression de Daesh, parvenu à moins de 350 km de l'Italie. Dans une récente vidéo intitulée « Message de sang à la nation à la croix », dans laquelle les islamistes ont mis en scène l'assassinat de 21 coptes égyptiens, l'orateur du groupe pointe son couteau vers le nord et dit « Nous allons conquérir Rome avec la permission d'Allah ». Cet épisode est au cœur de l'actualité médiatique en Italie. Le pays est sous extrême tension, craignant à tout moment une attaque. La crainte va même plus loin. L'éventualité, selon des analystes, d'une infiltration. Parmi les bateaux de migrants se trouveraient des terroristes. La police italienne a en effet intercepté des écoutes téléphoniques des djihadistes. En cas d'intervention occidentale en Libye, ils parlent de déborder l'Italie avec 500 000 migrants, soit 3 fois plus que ce que le pays a dû accueillir sur toute l'année dernière. Et il est déjà, tout comme l'Europe, submergé. L'avancée de Daesh a fait exploser le nombre de migrants arrivant en Italie, plus 64% en 2014. Et à condition que Daesh trouve les bateaux, 500 000 migrants, c'est tout à fait possible. On estime à 700 000 le nombre de candidats à l'exil attendant d'embarquer sur les côtes libyennes. L'Italie est donc tout près du chaos en Méditerranée, prédit en 2011 par le colonel Kadhafi avant sa mort. Une menace à laquelle les Italiens ont choisi de répondre par l'ironie. Sur Twitter, ils ont détourné le hashtag utilisé par les islamistes « We are coming to Rome » en leur donnant des conseils pour éviter les célèbres embouteillages italiens ou encore les inviter à venir visiter la capitale et profiter des monuments. Un pied né donc, pour répondre à l'horreur et à la peur.
Merci Céline pour cet exposé toujours aussi clair. On te retrouve tout à l'heure pour le Flash Info. Retour en France à présent, avec l'édito politique de Maëlys pour ce mercredi 25 février.
Française, français. Le débat d'aujourd'hui portera sur la politique. La politique, comment, pourquoi et quand.
Moi, président de la République, au revoir.
Merci Marie. Alors moi aujourd'hui, ma chronique pourrait s'intituler 50 nuances de la loi Macron. Passée il y a tout juste une semaine à grands coups d'article 49.3 à l'Assemblée nationale. Fini les « je t'aime moi non plus ». C'est officiel, l'histoire d'amour entre le gouvernement et sa majorité de gauche à l'Assemblée nationale prend un tour franchement sadique. Le gouvernement étant prêt à dégainer les pires instruments de notre Constitution pour dominer frondeurs et autres effrontés parlementaires. Là, c'est une grosse, grosse couleuvre que les parlementaires ont dû avaler. Et beaucoup se sont étranglés. Logiquement, le passage en force a entraîné un torrent de réactions et les répliques sismiques de cet épisode promettent de se faire sentir pendant encore un bon bout de temps. Revenons un peu aux faits grâce à un article du Canard enchaîné intitulé « La grande trouille de Valls », où on apprend que quelques heures avant le scrutin sur la loi, Valls et Hollande étaient terrifiés à l'idée que celle-ci ne passe pas et que quelques voix des frondeurs socialistes suffisent à faire pencher la balance du mauvais côté. Bref, François Hollande et Manuel Valls avaient la trouille. D'où le recours au 49.3 que François Hollande, qui visiblement a la mémoire un petit peu courte, qualifiait de brutalité et de déni de démocratie, je cite, en 2006. Si vous ne votez pas ce texte, le gouvernement tombe, la droite pourra revenir en force et ce sera un sérieux découvert pour notre camp. Soit vous votez la loi, soit c'est l'apocalypse. Bref, du bon vieux chantage affectif qui n'a pas plu à tout le monde. Le Canard enchaîné toujours nous livre les confidences d'Emmanuel Macron. Selon lui, les parlementaires de droite n'ont, je cite, « pas de problème avec le texte, mais ils revisitent chacun leurs années de pouvoir et tout ce qu'ils n'ont pas fait ». Fin de la citation, ajoutant que François Fillon a été très courtois d'ailleurs. On est content de l'apprendre. Par contre, les frondeurs qui sont devenus frondeurs par frustration, je cite, sont des gens intelligents qui auraient pu gouverner dans les années 90, mais qui n'ont pas changé de logiciel. Bref, à sa droite, on est content, mais un petit peu jaloux. À sa gauche, on est ringard, attardé et buté. Tout ça n'est pas très logique, me direz-vous, pour un texte qui se dit de gauche, mais bon. Au fond, qui n'a jamais confondu sa droite et sa gauche? Ça peut arriver à tout le monde. Sauf qu'ici, l'erreur d'Emmanuel Macron pourrait s'avérer désastreuse. En effet, à taper sur ses amis du PS et à jeter des fleurs à ses ennemis de l'opposition de droite, on ne garde pas ses amis longtemps d'une part, mais en plus, on n'en trouve pas de nouveau parmi ses adversaires, génétiquement programmés pour contester la moindre de nos décisions. Et au bout du compte, on se retrouve bien seul. La démonstration de cette règle politique en deux temps. Alors qu'Emmanuel Macron a fait une loi qui aurait pu tout à fait rentrer dans un programme de l'UMP, les députés de l'opposition ont déposé une motion de censure jeudi contre le gouvernement, par pur principe. Toujours jeudi dernier, sur Europe 1, à défaut de pouvoir contredire son contenu, Nicolas Sarkozy a fustigé, lui, une loi insuffisante, je cite, « la toute petite loi Macron ». Ce à quoi Macron a répliqué que notre ex-président n'avait pas de leçons à donner vu la pauvreté de son bilan politique dans ce domaine et qu'il n'avait lui-même pas eu la trempe de mener à bien ce type de réforme pendant son mandat. Patatras ! C'est toute l'UMP qui lui est tombée dessus avant-hier. Le porte-parole de l'UMP, Sébastien Huyghe, a dénoncé lundi, lors d'un point presse, je cite, « l'ego surdimensionné de M. Macron, son manque d'humilité et de modération, insinuant qu'il n'avait aucune leçon à donner, n'ayant jamais remporté la moindre élection. Lui qui, en plus, avait été obligé de faire passer sa loi au forceps. » Voilà Emmanuel rhabillé pour l'hiver par la droite, et qui, en plus, peine à trouver du réconfort dans son camp, qui se sent désormais trahi. Deuxième partie de la démonstration. La cinquantaine de députés frondeurs ne décolèrent pas et reprochent au gouvernement d'avoir été sourds à leurs revendications. La fracture avec la gauche du PS et l'exécutif est désormais actée, fracture qui vient s'ajouter aux différends avec les Verts, jadis au gouvernement, paix à leur âme, et avec le Front de Gauche qui accuse les socialistes de galvauder leurs valeurs de gauche au profit du grand capital. Le gouvernement s'isole de plus en plus de ses alliés traditionnels, dégoûté par une politique qui n'a de gauche que le nom, au risque de se heurter désormais à deux oppositions, l'une à sa droite, l'autre à sa gauche. CQFD. Emmanuel Macron et le gouvernement ont peut-être remporté une bataille en arrachant laborieusement la victoire. Ils n'ont certainement pas gagné la guerre, bien au contraire.
Merci Maëlys. Allez, chers auditeurs, allons voir du côté des kiosques maintenant. On clôture ce quart d'heure avec la revue de presse française. Elle vous est présentée par Clément.
Voici la revue de presse. Bonjour Bruno Duvic.
Bonjour à tous.
L'hyper revue de presse.
La revue de presse dans les journaux.
La revue de presse.
La revue de presse qui fait parler et qui vous fait réagir, c'est avec Natacha Polony.
Revue de presse française. Et on commence cette revue de presse avec...
Alors cela se bouscule dans l'actualité aujourd'hui avec un événement tout de même dans le paysage de la presse française. Je parle bien entendu du nouveau numéro de Charlie Hebdo, un mois et demi après les attentats meurtriers contre le journal. Alors, tiré à 2,5 millions d'exemplaires, il affiche une rouge, joyeuse, hein, on le voit tout à fait. Il affiche donc une rouge et joyeuse et... Eh bien, le petit chien portant dans sa gueule le journal est poursuivi par des figures très sympathiques. Hein. Le pape, BFM TV, un chien avec une Kalachnikov, Marine Le Pen et Nicolas Sarkozy. Ouais. Après l'unité nationale, le journal est de retour. C'est reparti avec son cortège d'ennemis. Et Libération consacre d'ailleurs ses premières pages au récit de la renaissance de Charlie depuis les attentats. On rappelle que Libération s'est très rapidement engagée dans la cause de l'hebdomadaire satirique en lui prêtant une salle au sein de leur rédaction.
Alors comment se porte la rédaction de Charlie Hebdo ?
Eh bien, ce n'est pas facile, Marie. Non seulement parce que nombre de ses membres sont encore hospitalisés ou en soins, et surtout parce que tous sont très marqués et choqués par l'horreur des événements, on s'en doute. Il leur a fallu du temps pour commencer, ne serait-ce qu'à encaisser le choc et faire un nouveau numéro. Et Rhys, eh bien, il résume toutes les difficultés de l'équipe, je cite, « On est un peu coincé, tout le monde attend de nous qu'on refasse Charlie, mais les gens ne se posent pas la question de notre état d'esprit. Ils ne se rendent pas compte de ce qu'on a dû encaisser. » Parce que certains ont songé à tout arrêter, d'autres voulaient faire une pause de plusieurs mois. En tout cas, l'avenir de Charlie, de l'aveu de sa rédaction, est incertain tant la situation est difficile. Mais malgré cela, Charlie est plein de bonne humeur, la une est joyeuse, et l'ambiance, quoique studieuse, reste détendue en conférence de rédaction. Et en page 3, une série de dessins sur ceux qui ne sont pas Charlie, rappelant les déclarations d'un certain nombre de personnalités à l'image de Jean-Marie Le Pen, avec en titre « Ouf ! Ils ne sont pas Charlie ». Et le journal se montre également sérieux, bien sûr, hein, avec une interview du ministre des Finances grec, l'économiste Yanis Varoufakis, qui nous livre un beau mot d'esprit. L'Europe prescrit l'austérité comme les médecins de jadis prescrivaient des saignées.
Oh ben je vois déjà le tableau, la Grèce doit occuper des pages et des pages et des pages.
Oui, alors à ce sujet, eh bien, quand on regarde les unes, on constate pas mal de similitudes entre Le Monde et Le Figaro. Ah oui, hein. En une du supplément Éco et Entreprises du Monde, Tsipras oublie ses promesses de campagne pour satisfaire Bruxelles. En une du supplément économique du Figaro, la Grèce plie sous la pression de l'Europe. Et la une du Monde, hein, Grèce, le gouvernement Tsipras se plie aux exigences de Bruxelles. Dans le détail, pourtant, hein, l'éditorial du Monde, s'il parle d'un retour à la réalité, eh bien, il loue le réalisme des nouveaux gouvernants grecs et surtout il appelle à les soutenir. Le gouvernement de Tsipras a en effet donné des gages de sérieux et d'une authentique volonté réformatrice. Le moment est venu de l'appuyer sans arrière-pensée, lit-on dans l'éditorial. Et il s'agit de l'appuyer dans sa lutte contre la corruption, puisque le journal rappelle que la Grèce, en matière de corruption, est un des mauvais élèves de l'Union européenne. Bon, je vous parlais de similitudes entre Le Monde et Le Figaro, hein, mais bon, dans le détail, les choses sont un peu différentes. Parce que plutôt que d'encourager le nouveau gouvernement grec dans sa volonté de réforme, eh bien, le journal préfère les mettre en doute. Il rapporte ainsi les propos de Christine Lagarde, présidente du FMI. Sur bon nombre de sujets, peut-être les plus importants, il n'existe pas de garantie ferme que le gouvernement entend mener à bien les réformes envisagées. Et Alexandra Bouillet, du Figaro, explique qu'Athènes a dû plier face à la réelle politique européenne et note que ce retour à la réalité risque de doucher les espoirs des partis alternatifs européens, en premier lieu ceux de Podemos en Espagne. Et parce que nous sommes dans le Figaro, hein, on met dans le même sac beaucoup de choses. Je cite « La leçon est amère pour les partis eurosceptiques comme Podemos en Espagne, le Front National en France ou les amis de Jean-Luc Mélenchon. » Raccourci ou amalgame douteux, je vous laisse juger.
Et alors ces journaux, Clément, ils pensent quoi de l'actualité française ?
Ah là-bas, ils en pensent beaucoup de choses. Dans Le Monde, on a un dessin de Plantu qui compare les frondeurs du PS face au gouvernement et les Grecs face à l'Europe. Alors le journal note qu'une semaine après la douloureuse utilisation du 49-3, eh bien Valls veut absolument, dans le cadre du dialogue social, je cite, « éviter le passage en force ». Et même la CGT, eh bien, admet que le projet gouvernemental est plus conciliant que celui proposé par le MEDEF. Alors après les discussions houleuses sur le pacte de responsabilité l'an dernier, on n'est plus vraiment habitué à une telle ambiance. Et pourtant, Jean-Baptiste Chastan et Bastien Bonnefou expliquent que la chose est loin d'être gagnée, puisque, ouvrez les guillemets, sur ce genre de texte, le diable se niche dans les détails, et ceci ne devrait être précisé que dans un second temps. Donc tout cela contraste, hein, avec la hausse des salaires obtenus en Allemagne dans la métallurgie, hausse que Le Monde annonce dans son sommaire en une. Et Le Figaro, lui, consacre un dossier à l'actualité politique, hein, et évoque longuement cette question des frondeurs du Parti Socialiste, le gouvernement dans le piège des frondeurs. Parce que, eh bien, Yves Tréhard, considère qu'il ne reste pas grand-chose des bonnes intentions de la loi Macron, à cause de toutes les concessions faites à la gauche du PS, mais qu'en plus, hein, le gouvernement s'est ridiculisé dans une véritable scène de ménage. Et ce même Yves Tréhard, il se permet même un peu de psychologie politique.
Oh bah oui, allons-y.
Si François Hollande et Manuel Valls tenaient à leur réforme, ils refuseraient de se prêter à ce petit jeu et assumeraient les risques de leur détermination, y compris celui d'une dissolution. Psychologie ou douce rêverie de politique fiction ?
Bon, donc des journaux très politiques aujourd'hui, si on a bien compris.
Oui, mais pas seulement. Parce que Libération consacre une double page à la situation du Kosovo, peut-être en écho au long dossier que Mediapart vient de publier sur le sujet. Et Philippe Bertinchamp, qui est envoyé spécial là-bas, décrit l'exode qui touche le pays. Parce qu'entre 100 000 et 200 000 personnes auraient quitté le Kosovo, qui compte moins de 2 millions d'habitants. Alors les inégalités sociales n'ont cessé d'augmenter, et la population ne fait plus confiance à ses élites politiques. Et le journal rappelle un chiffre qui fait froid dans le dos. L'ONG Transparency International, vous excuserez mon accent.
Mais oui.
Eh bien, cette ONG considère que sur 175 pays évalués, le Kosovo est classé 110e pour la perception de la corruption.
Merci Clément. Alors au cours de cette demi-heure, chers auditeurs, vous avez entendu une fine équipe. Il y avait Lino, Céline, Maëlys, Clément. Il se pourrait fort que vous les retrouviez très prochainement sur Transistor avec un cinquième numéro, Jérémy, dans une émission qui amplifiera votre regard sur l'actualité. C'est à retrouver très bientôt. Bon Mathilde, Pauline, c'est pas la peine de faire la gueule, je sais bien que vous êtes une fine équipe vous aussi. On vous retrouve tout de suite après le rappel des titres. Je laisse la parole à Thomas.
À la une de l'actualité de ce mercredi 25 février, chers auditeurs, la publication à 18h des chiffres du chômage pour le mois de janvier dernier. Fin 2014, il y avait 3 millions de demandeurs d'emploi inscrits sur les listes de Pôle emploi. Les chiffres de ce soir ne devraient pas être très bons. François Rebsamen, le ministre du Travail, espère une diminution du nombre des chômeurs, mais pas avant la fin de l'année, dont acte. Justement, pour favoriser l'emploi, tout à l'heure à 15h, le Premier ministre Manuel Valls reçoit les leaders de 3 organisations patronales et de 5 syndicats au programme la modernisation du dialogue social. L'objectif ? Simplifier les obligations qui pèsent sur les entreprises de plus de 50 salariés afin d'inciter PME et TPE à franchir ce seuil et à embaucher. Mais avant la parution des chiffres du chômage, une autre parution était très attendue aujourd'hui. Depuis ce matin, vous pouvez acheter en kiosque le nouveau numéro de Charlie Hebdo. Son titre, c'est reparti. Clément vous en parlait à l'instant dans sa revue de presse. Mais pour l'heure, le rappel des titres, c'est également la publication ce mercredi du rapport annuel d'Amnesty International. Et c'est un vrai signal d'alarme que tire l'ONG. Explosion du nombre des victimes civiles lors des conflits, recul de la liberté d'expression ou encore nombre record de personnes déplacées à travers le monde. Parmi les déplacés, de nombreux Ukrainiens certainement. Certes, un cessez-le-feu a été signé entre le gouvernement de Kiev et les séparatistes pro-russes, mais dans l'est du pays, il n'est toujours pas respecté. Et concernant l'Ukraine, on apprenait enfin hier que Londres allait envoyer des militaires pour former l'armée gouvernementale.
Merci Thomas. Allez, chers auditeurs, détendez-vous, enfoncez-vous dans votre siège. Mathilde et Pauline vous présentent le journal de la culture. Bonjour Mathilde.
Bonjour.
Bonjour Pauline.
Bonjour Marie, bonjour Mathilde. Bonjour chers auditeurs et bienvenue dans le journal de la culture de ce mercredi 25 février 2015. Au programme, un retour sur la polémique initiée par la sortie du film American Sniper de Clint Eastwood, puis restez à l'écoute pour un quiz qui vous plongera au cœur des actualités culturelles les plus insolites.
Les Bonnaires, les Ravels, les Berlioz, les Maupassants, les Renoirs et les Rembrandts qui survivent malgré le temps. Les Céline, les Zola, les Sartes et les Degas, les Pascal et les Goya, dont on ne se lasse pas, la culture est une...
Mais tout d'abord, retrouvons l'agenda culturel. On commence par une petite sélection des sorties de la semaine au cinéma par Mathilde.
Alors, merci Pauline. J'ai décidé de vous amener avec moi dans les steppes mongoliennes avec la sortie du Dernier Loup, un film franco-chinois de Jean-Jacques Arnaud. J'ai sélectionné également pour vous un film peut-être un peu plus difficile, Loin de mon père, film israélien de la réalisatrice Keren Yedaya, qui aborde la relation père-fille à travers le très douloureux thème de l'inceste. Mais si je devais vous donner un conseil, ce serait d'aller voir quelque chose de peut-être un petit peu moins déprimant avec Birdman, le film qui a reçu 4 Oscars, comme l'avait indiqué Thomas.
Oui.
C'est, c'est l'histoire réalisée par Alejandro González Iñárritu. J'espère ne pas écorcher son nom. Tu me le diras,
Caroline. On espère aussi
que très bien. Camille.
D'un ancien acteur de l'histoire d'un ancien acteur de blockbuster américain habitué au rôle du super-héros Birdman et qui essaie de se faire refaire une crédibilité avec une pièce de théâtre qu'il monte. Alors il me semble que c'est vraiment un récit très rempli d'absurdité, de poésie et de réflexion sur ce que c'est que le cinéma avec un regard très ironique.
Ça s'appelait à Mathilde la métacritique du
voilà,
cinéma.
Voilà, exactement. Alors moi je me laisserais bien tenter.
Oui, bah c'est vrai que moi aussi je me laisserais bien tenter et puis j'ai l'impression que ce film nous dit une chose, c'est n'allez pas au cinéma, allez au théâtre. Et moi je vous dis une autre chose, c'est n'allez pas au théâtre, c'est aller à la bibliothèque. Et plus précisément, la Bibliothèque nationale de France ou la BNF, il faut savoir que le décret qui a stipulé sa création date de 1994 et que son ouverture effective a eu lieu en 1996, ce qui signifie que 2015 est l'année médiane de la genèse de la BNF telle qu'on la connaît aujourd'hui. Elle fait donc ses 20 ans. Pour rappel ou pour information, ses missions sont diverses. Il s'agit notamment de collecter, cataloguer, conserver et enrichir tous les champs de la connaissance avec un accent bien sûr sur le patrimoine de la culture et de la littérature française, n'est-ce pas ? Mais c'est également assurer l'accès du plus grand nombre aux collections et également préserver, gérer et mettre en valeur les immeubles dont elle est dotée. Parce que la BNF, ce sont en effet également des bâtiments, un lieu et un endroit magnifique avec 4 tours de géants qu'on doit à l'architecte Dominique Perrault, mais également des jardins où, il faut savoir, se reproduisent très souvent les lapins.
Bah oui, il y a des petits malins qui les ont descendus en rappel avec une corde. Et un couple, et depuis, ça a fait des bébés et il y a des lapins partout.
C'est vital comme information, merci Mathilde.
Mais je crois, Mathilde, que l'on peut faire autre chose à la BNF qu'aller
lire.
Bah
oui, bien sûr, je vais rajouter pour les auditeurs qui ne connaissent pas très bien cette très belle bibliothèque, que la BNF abrite en plus des lapins, également tout au long de l'année de très belles expositions permanentes, temporaires, en son sein et hors de ses murs. Alors moi, celle que j'aimerais vous conseiller aujourd'hui, c'est une exposition hommage au dessinateur décédé de Charlie Hebdo qui aura lieu du 26 mars au 12 avril.
Alors la polémique culturelle de ce mercredi 25 février, on en parlait tout à l'heure, c'est la sortie du film American Sniper du réalisateur Clint Eastwood, qui est sorti mercredi dernier et qui retrace l'histoire vraie de Chris Kyle, un sniper de l'armée américaine qui est devenu un véritable héros national après avoir tout de même abattu plus de 160 ennemis durant la guerre d'Irak. Alors le film est en tête du box-office français de la semaine, plus de 800 000 entrées en quelques jours. Et ce succès est encore plus considérable aux États-Unis. Il a déjà rapporté 300 millions de dollars de recettes.
Mais oui, Marie, et derrière tout ce succès, il y a un film qui soulève de très nombreuses questions. Et c'est vrai que, en fait, le film est basé sur un roman autobiographique de ce fameux Chris Kyle, qui avait été un véritable best-seller aux USA. Et il me semble que ce film a beaucoup plus d'ambiguïté que parce que dans cette œuvre, on découvrait un tueur qui ne témoignait aucune hésitation, aucun regret, si ce n'est de ne pas avoir tué encore plus d'ennemis, et un patriote. Autisme et un amour des arts exacerbé qui évidemment ne manque pas de déranger en France comme aux États-Unis. On sait par exemple que Michael Moore s'est élevé contre les snipers.
Oui, tout à fait. Alors Michael Moore a tenu à dire qu'il ne jugeait pas de la qualité cinématographique de l'œuvre, mais du sujet, et notamment en qualifiant le fait d'être un sniper comme une activité tout à fait lâche, mentionnant que son oncle avait été tué lui-même par un sniper lors de la Seconde Guerre mondiale. Donc ce qu'il visait par là, c'est le fait notamment donc, d'être à distance. Quand on est un sniper avec cette asymétrie un petit peu des parties qui fait que la cible n'est pas du tout au courant et n'a aucune chance. Et il mentionnait, il faut le noter, le fait qu'en revanche, il considérait que si c'est sur le sol états-unien et qu'il y a une personne qui nous menace, on est en droit d'être un sniper. Donc il soulevait aussi l'ambiguïté suivante, à savoir on pourrait utiliser pour se défendre une arme chez soi, mais pas dans le cadre d'une guerre à l'étranger.
Voilà. Sophie, je me pose vraiment cette question de la violence et finalement, il me semble que là où Clint Eastwood a témoigné beaucoup plus de subtilité et d'ambiguïté, c'est qu'il donne à son héros la capacité d'hésiter. On le voit par exemple dans cette scène très poignante où il hésite à tirer sur un enfant qui a une grenade et qui représente évidemment un danger. Et tous ces parallèles incessants entre sa propre vie de famille, ses propres enfants, sa propre femme et ces civils qu'il va tuer sur le sol irakien.
Mais en fait, on peut se demander si c'est pas justement l'ambiguïté ou le caractère profond de l'œuvre cinématographique qui gêne, à savoir montrer qu'un sniper peut peut-être avoir des états d'âme. Ça peut être aussi la question de la polémique, mais voilà.
D'accord. Globalement.
Donc, on vous le conseille, faites-vous une idée. Il paraît que c'est une grande œuvre de cinéma.
Ah bah oui, surtout si vous êtes... tous ceux qui sont fascinés par la mort, allez donc voir ça. À propos de fascination pour la mort, Pauline, tu avais quelque chose à nous dire à ce sujet, non ?
Oui, tout à fait. J'ai quelque chose à vous dire au sujet de la mort, qui est...
Oui, merci
qui
Pauline.
Est que les enfants, nous sommes mortels. Nous sommes mortels.
Ah bon ?
Non.
Oh, non.
Voilà.
Oh, non.
Non. Trêve de plaisanterie, il y a quelque chose qui n'est pas mortel cependant, c'est l'art. C'est-à-dire que si on a du mal avec l'idée que la guerre, ça puisse tuer effectivement, il faut savoir que l'art, et y compris l'art plastique, eh bien, peut mettre en scène la mort. Et nous allons le voir maintenant dans notre quiz de culture insolite. Donc, concernant justement l'art plastique et la mort, je voulais attirer votre attention sur le fait qu'un nouveau musée a été inauguré à Berlin, qu'il aurait pu ne jamais ouvrir ses portes, puisque les pièces qu'il abrite sont pour le moins spéciales. De quoi s'agit-il selon vous?
Alors, j'ai très peur, on vient de parler de mort. Donc,
le musée du cercueil.
Alors, ça, c'est. Ça, c'est ton budget.
Non.
C'est vrai que c'est pas loin de ce que disait Marie, c'est-à-dire que ça a rapport au corps et au cadavre. Il faut savoir que l'anatomiste allemand de 70 ans, Günther Verhagens, a inauguré la semaine dernière, le 18 février, très exactement, son musée de l'homme, qui abrite de nombreuses pièces et notamment des corps qui sont conservés selon la technique dite de plastination. Il faut savoir qu'avant d'être conservés et mis dans le musée, ces pièces étaient itinérantes. Il a fallu quand même à l'anatomiste se battre contre la municipalité qui ne voulait pas qu'un tel musée puisse ouvrir ses portes.
Tu m'étonnes.
Voilà. Donc voilà, c'était la petite info un peu glauque, j'avoue.
Voilà, merci Pauline pour cette information bien glauque.
Oui, merci.
Alors attention, vous allez devoir deviner quelle œuvre vient d'être vendue pour la modique somme de 2,5 millions d'euros. Et pour cela, je vous propose un indice musical.
Ils ont enfin coupé la houppette de Tintin.
Un peu de sérieux,
l'air de Brest.
Mais c'était très sérieux.
Un album.
Je sais pas, moi, le Château de Moulinsart.
Un original, un premier exemplaire.
Tu n'es pas loin, Nicolas, parce qu'il s'agit d'un dessin original d'Hergé, réalisé à l'encre de Chine pour la couverture de l'album de Tintin, L'Étoile Mystérieuse. Tenez-vous prêts pour le second indice sonore. Je vous laisse écouter et répondre à cette question. Quelle compétition s'est tenue cette semaine? Oui, au sein du salon de l'agriculture, des idées autour de la
transistor,
table.
Transistor, la radio qui égorge des porcs en direct. Merci.
En fait, nous envisageons une reconversion dans le journal de l'agriculture.
Non, parce que justement, Pauline, le salon de l'agriculture, ce n'est pas seulement une manifestation éminemment culturelle, c'est hautement artistique. Il s'agit du concours du meilleur cri de cochon remporté pour la 6e fois consécutive par le champion du monde du cri de cochon, Jean-Michel Meunier dit Nono.
Ah, mais présentez-le-moi, amenez-le-moi.
C'est un humain.
Je ne sais pas si.
Un
concours de cri de cochon.
Par des humains.
Ça pourrait être des vrais cochons.
Ils sont déguisés d'ailleurs.
La dernière petite question que je vais poser, n'a pas généré des cris de cochon, mais en tout cas des cris d'orfraie. Il s'agit d'une œuvre qui s'appelle Hollywood's Best Part, ou en français La meilleure fête d'Hollywood, et qui a donc créé la polémique quelques jours avant la cérémonie des Oscars aux États-Unis, à Los Angeles. De quoi s'agit-il, d'après vous?
Alors une fête à Hollywood, moi ça me fait juste penser à The Great Gatsby, mais à part ça j'ai pas trop d'inspiration en ce moment.
Ça aurait pu.
En fait, donc cette œuvre, ce n'est pas un film, on a beau être cinéaste aujourd'hui, ce n'est pas un film. Il s'agit d'une statue qui a été faite par un artiste qui s'appelle Plastic Jesus, rien que ça, et qui est habitué en fait des statuettes de camé, parce que tout simplement il a pour ambition de dénoncer le règne de la drogue dans la jet set hollywoodienne. Et évidemment ça a gêné parce que c'était juste devant le lieu de Dolby Théâtre, hein, de la cérémonie des Oscars. Donc on l'a enlevé jeudi dernier. Mais on peut toujours admirer cette œuvre sur Melrose Avenue, quelques rues plus loin. Voilà.
Eh bien, merci les filles d'avoir essayé d'être sérieuses. Plastic Jesus, franchement. Allez, à venir dans, en ce moment, l'éphéméride et l'horoscope. Mais tout de suite, le bulletin météo de Caroline.
Salut les schizos. Quoi de neuf en météo? On va voir ça tout de suite.
Bon, du coup, on fait quoi cette fois? Quelqu'un a une idée?
Bah, je sais pas, on pourrait pas rappeler cette poufiasse de nonne.
Qui nous parle? Est-ce vous, mon écailleux seigneur? Mais qu'est-ce que tu racontes? Je crois que c'est par rapport aux États-Unis, indice de marée à 119, garde qui escalade les chutes, la tempête nommée Pandora, boîte de Pandore, apocalypse, second coming, yes, tout ça. Ouais, délire paranoïaque, ils adorent ça, c'est con. Attention, à l'instant même où je vous parle, je suis sûre que nous sommes filmés. Je suis super folle, vous savez. Bonsoir. Alors déjà, oui. Et puis, oui, oui. Tu peux pas dire n'importe quoi à la radio comme ça. Après, on essaie de pas toujours faire la même chose, t'as remarqué. Et puis, le patron a dit deuxième météo nationale, donc... Coco, tu vas vite. Non, pas... Mais non, pas ce patron-là, l'autre, celui-là. Tom, l'horrible bonhomme.
Qui ne dit jamais ça, hein.
C'est quoi ce... En plus, c'est quoi ce rouge à lèvres de prostituée? Tu reviens du bois de
oui,
Boulogne
ça, c'est
ou quoi
vrai, hein.
Attends, essaie un peu de faire un prédateur sexuel en femme. C'est vachement plus compliqué. Essager, c'est beaucoup plus facile. Si je puis me permettre, dans l'esprit de la vidéo et pour promouvoir l'égalité, je propose de surtitrer la météo en langue des signes. Par exemple, cet après-midi, il y a une vague de froid et de pluie sur la France. Sauf dans le sud-est. Par exemple, à Nice, on observe 15 degrés. Et ensuite, non, arrête de cramer, on s'en fout. Qu'est-ce que tu fais, toi? Bah, je continue. Alors, de la pluie et 12 degrés à Rennes, à Lyon, du soleil, 8 degrés, les animaux sont nos amis.
Pitié, tuez-moi.
Oh, pourtant, j'avais une jolie histoire sur les flamants roses qui voient la neige pour la première fois. Dis pourquoi t'as un accent anglais? Non, c'est juste parce que la fille qui écrit les sketchs n'est pas très douée pour faire des différentes voix. Vous savez quoi? Laissez tomber. Est-ce qu'on a une conclusion valable? Bah, je pourrais raconter une blague. Alors, c'est un prêtre, un pédophile et un âne qui sont dans une école maternelle. Là, je n'entends rien, Ah, isul nora l'anele, ala selen le coia, ornomen ta gurta, ala men le nova, caler at festa, an la quele. Les elfes sont nos amis. Traduction. Que le vent remplisse vos voiles, que les feuilles de votre arbre de vie ne deviennent jamais brunes, que vos chemins soient verts et la brise dans votre dos. Bon, ok, c'est plutôt joli, mais vous savez que si on continue à ne pas faire la météo, ils vont finir par nous virer. Hein. Oh, on s'en fout. Et tu sais, j'ai aussi trouvé comment dire, va te faire rouler une pelle par un orque. On essaye? Qu'est-ce que c'est, une pelle? Seigneur Raptor Jésus, ayez pitié de notre âme.
Merci, Caroline. Bon, allez, on se calme un peu. Je vous demande du sérieux, s'il vous plaît. Oui. Je vous ai promis un quart d'heure plus léger, mais avant cela, penchons-nous un peu sur cette noble discipline qu'est l'histoire et sur la date du jour. C'est le 25 février dans l'histoire, une chronique proposée et imposée à Camille.
La radio n'étant pas télévision, nous ne pouvons pas offrir à l'auditeur ce que nous aurions offert aux téléspectateurs, c'est-à-dire des images.
Bonjour Marie, bonjour à tous.
Bonjour.
Donc, le 25 février dans l'histoire. Le 25 février, 56e jour du calendrier grégorien, 7e jour du mois de Venteuse dans le calendrier républicain français, en vigueur de 1792 à 1806, officiellement dénommé jour de la Laterne,
oui.
Nom scientifique Rhamnus alaternus, arbrisseau du genre Rhamnus, de la famille des Rhamnacées, caractéristique des garrigues méditerranéennes, dont le fruit, proche de la prune...
Oui, mais bon, Camille, de l'histoire, voilà.
Non, mais faut me comprendre aussi. Le 25 février dans l'histoire. Mais c'est quoi cette trouvaille? Déjà, de l'histoire, hein. Excusez-moi, pardon.
Ah mais dis donc mais... Oh.
Non, mais
les historiens sont majoritaires ici.
Je suis d'accord.
Je tiens à préciser que pour une émission qui se targue d'informer le fidèle auditeur de ce qui se passe en ce moment, intituler une chronique le 25 février dans l'histoire, c'est déjà un peu se foutre du monde. Mais bon, puisque je vous sens un peu belliqueux, hein,
bah oui.
On va commencer.
Oui, bah oui, ça vaudrait mieux. Hein.
Donc,
s'il te plaît.
Justement, je vous propose un peu d'histoire bataille. Alors, si vous écoutiez le En ce moment 2429, je vous dirai comment Jeanne d'Arc vient de rencontrer à Chinon un Charles VII suffisamment désespéré pour confier le sort de son royaume à une pucelle à la coupe douteuse et à l'esprit parcouru d'interférences auditives. Et oui, Jeanne d'Arc captait la radio. Entrevue fructueuse pour la pucelle donc, qui parvient à convaincre le petit roi de Bourges, comme on l'appelait, de lui confier des troupes pour aller livrer bataille et selon la formule consacrée, pour bouter l'anglais hors de France, avec le succès que l'on sait.
Wait a minute, something's happening. Humped shape is rising out of the pit. I can make out a small beam of light against a mirror.
Autre temps, autre mœurs et autre combat.
Jet of flame springing from the mirror and it leaps right at the advancing men.
Est-ce que vous entendez? Vous entendez? Oui. Nous sommes le 25 février 1942 et les aliens attaquent Los Angeles.
Et oui. Pour information, les États-Unis viennent juste d'entrer dans le conflit, en pleine Seconde Guerre mondiale, et le pays, encore sous le choc de Pearl Harbor, vit dans la crainte permanente d'une attaque japonaise sur la côte ouest. Soudain, dans la nuit du 24 au 25 février, la marine, avertie de l'arrivée imminente d'une offensive japonaise, détecte un objet non identifié dans le ciel. C'est la panique. Pompeusement, on l'appelle la bataille de Los Angeles, quand en réalité, l'armée américaine s'est contentée de balancer plus de 1400 obus en quelques heures, frénétiquement, sur une ombre. En fin de compte, aucune trace du mystérieux objet volant qui a échappé à une si lourde offensive et n'était, selon toute vraisemblance, pas un avion japonais. Alors, depuis, les thèses ufologiques, qui concernent l'existence des ovnis, hein, comme vous le savez maintenant, s'en donnent, vous l'imaginez, à cœur joie. Bon, je dois avouer que l'extrait sonore provenait, lui, de la version radiophonique de La Guerre des Mondes, d'Orson Welles, diffusée, elle, dès 1938 par CBS. Et si la légende veut que ce reportage fictif ait provoqué un vent de panique dans tout le pays, la bataille de Los Angeles a, elle, fait des victimes bien réelles. 3 civils, tout de même, furent tués par des retombées d'obus, et 3 autres moururent d'une crise cardiaque due au stress provoqué par la bataille.
Oui, bah, puisqu'on parle bataille de fiction... Hein.
Oui, cette date semble propice aux batailles un peu fantoches et burlesques. Nous sommes désormais à Paris, où a lieu le 25 février 1830, au théâtre de la Comédie Française, la première de Hernani, pièce du jeune Victor Hugo, dont, et donc c'est le début de la célèbre bataille d'Hernani, acte fondateur mythique du romantisme français. Les forces en présence. À ma droite, les classiques, partisans d'une hiérarchisation stricte des genres théâtraux, académiciens en perruque et garants du canon, très remontés contre cette provocation hugolienne qui prétend briser les règles de la tragédie classique. À ma gauche, les flamboyants. Menés par le jeune et charismatique Victor Hugo, fringant, sonore, voyant Théophile Gautier, que la légende revêt d'un fort discret gilet rouge, ou encore Dumas, et son décoiffé de jeunes romantiques ténébreux. Ça claque, ça siffle, ça crie, ça chahute.
Oh mais c'est un scandale !
Le buzz version 19e siècle. Il faut dire que Victor n'y va pas de main morte. Abandon fracassant des règles de l'unité de temps et de lieu, de l'unité d'action, révolution métrique qui brise l'alexandrin classique non pas en deux, à l'hémistiche comme il se doit, mais en trois, créant ainsi l'alexandrin romantique. Mélange des registres. La pièce comporte ainsi des passages parmi les plus flamboyants de la littérature française, hein, comme ce passage, acte 1, scène 2, que je vais déclamer pour vous. « J'ai vu dans sa belle âme tant d'amour, de bonté, de tendres sentiments, que madame, à coup sûr, en a pour deux amants. » Une merveille de romantisme. Ou encore, ce morceau de bravoure en alexandrin, s'il vous plaît. Quand aurez-vous fini de conter votre histoire, croyez-vous donc qu'on soit à l'aise dans cette armoire ?
Oui, bon, merci, merci Camille. Je crois qu'on va ici conclure ton histoire. Non, allez, merci Camille. Et si vous vous perdez au milieu de toutes ces dates, tous ces événements, tous ces personnages, ne retenez qu'une chose, 25 février, Saint-Roméo. J'ai bon, Nicolas ?
Nous sommes le mercredi 25 février 2015. Et oui, vous écoutez bien Transistor. Aujourd'hui, nous fêtons les Roméo. Le prénom Roméo, il y a en gros trois possibilités. Soit vous en connaissez un, et du coup vous savez que c'est sa fête aujourd'hui. Vous avez intérêt à la lui souhaiter si vous ne voulez pas être traité de faux amis. Je vous aurais prévenu. Les deux autres possibilités, si comme moi vous n'en connaissez pas personnellement, c'est que ce prénom vous fasse penser à Roméo et Juliette. Et si je n'ai pas fait d'éphéméride pour le 14 février, je ne vais pas en faire une aujourd'hui. Ou alors vous pouvez penser à la marque de voiture, Alfa Romeo. Mais peut-être que c'est juste mon esprit qui est un peu tordu. Bon, je vous sens un peu désappointé. Roméo, c'est rigolo, mais ça ne vaut pas Bibiane, me direz-vous. Oui, Bibiane avec deux B, comme dans Bonbon, Biblo et Bilboquet. Réjouissez-vous, aujourd'hui, on ne fête pas que les Roméo. On fête les Thérèse, les Valburges, joli prénom féminin à ne pas écarter, chers futurs parents.
Valburge.
Les Ropars, avec ZH à la fin. Et le meilleur pour la fin, nous fêtons les Gerlans.
Ben voilà.
Est-ce que j'ai l'air de rigoler ?
Non.
Je vous propose donc un jeu concours. Big up à toi, Thomas Saint-Patron des Gones. Tous les auditeurs portant pour prénom le nom d'un quartier desservi par le tramway des TCL pour ne pas faire de discrimination envers les Brons et autres Montplaisir peuvent participer. Règlement disponible sur notre site. La question suivante que vous vous posez, chers auditeurs, c'est « Mais qui était donc ce sacré Saint-Gerland ?»
Ben oui.
Eh ben, c'était un simple évêque en Sicile, né à Besançon. Pas aussi drôle que Bibiane, donc.
Malheureusement.
Par contre, on fête aussi Aldetrude de Maubeuge.
Je vous en prie.
Abbesse de la fameuse abbaye de Maubeuge. Pourquoi fameuse ? Eh bien, par ses prénoms d'abbesse, bien entendu. Loin de moi, l'idée de me moquer des prénoms des gens, une éphéméride, après tout, ça ne sert pas à ça. Mais après la fondation de l'abbaye par Sainte Aldegonde en 661, ça commence bien, ils ont eu droit, et dans cet ordre, à Aldetrude, Madelberte, Théotrade, Ansoalde, Guissande, Frédessande, Christiane, Fré et Sessande, Linduide, Christine, Hermangarde, M et Eusile deux fois. Faites le compte, entre 661 et 1245, ça fait 584 ans, autant d'occasions de rigoler un bon coup et un seul prénom portable.
Ils ont tous été nommés d'après le catalogue Ikea, je crois.
Bien vu.
À part la fête nationale du Koweït, on ne fête pas grand-chose aujourd'hui. Malgré le nombre incroyable de journées mondiales de quelque chose, aucune ne tombe le 25 février. Pourquoi ? Oui, pourquoi n'a-t-on pas fait ce live demain, jeudi 26 février, journée mondiale d'action contre l'ordonnance sur les brevets en Inde ? Je ne déconne pas. On peut se souvenir du décès, le 25 février 1954, d'Auguste Perret, architecte du Havre reconstruit. Non, je ne suis pas prêt à parler de ma ville à n'importe quel moment, n'est-ce pas Marie ?
Non.
On peut surtout souhaiter un joyeux anniversaire à... Pas tant de monde que ça dans le showbiz, en fait. Bon, mis à part le grand George Harrison, The Quiet Beatle, comme on le surnommait, décédé en 2001. Et parmi les vivants, Daniel Potter, chanteur canadien talentueux.
Oui.
C'est aussi l'anniversaire des acteurs qui jouent les jumeaux Weasley, les rouquins amusants dans les films Harry Potter, à savoir James et Oliver Phelps. Et pour rester dans les prénoms, je rappelle à toutes fins utiles que Oliver est le saint patron des rouquins, car l'ange Oliver protège les roues. Sur ce, demain, le soleil ne se lèvera pas à 21h37 et ne se couchera pas à 8h43. Dieu nous en préserve.
Merci Nicolas. Bon alors comme nous sommes filmés aujourd'hui, je m'attendais, je sais pas moi, à ce qu'il se ramène avec une boule de cristal, un jeu de tarot, enfin quelque chose, des bougies à la cannelle,
elle
qu'est-ce que j'en sais moi
hein. Non, j'ai ça chez moi, je prépare en avance, oui. Sérieuse,
bon.
C'est la vraie astrologie.
Bon mais Madame Soleil, allez, c'est l'heure de l'horoscope.
Bélier. Dans un avion, sur le pont d'un bateau, au fond d'un train ou dans un vieux grenier, ce mercredi 25 février, personne ne va vous aimer. Taureau, ce décan Neptune entre dans votre orbite. Il est grand temps que vous perdiez ces kilos défaites. Gémeaux, né sous le même signe que Megan Fox, vous êtes la preuve que les astres déterminent tout sauf le physique. Cancer, impossible de savoir ce que l'avenir vous réserve, peut-être à cause de ce climat planétaire à primauté saturnienne, ou peut-être juste parce que tout le monde s'en fout. Lion, côté cœur, tout a une fin. Sauf la banane, étrangement placée sur votre table de chevet, qui, elle, en a deux. Vierge, vous avez au moins appris à vous aimer vous-même, votre historique de navigation peut en témoigner. Balance, mangez des salsifis, même si ça ne rend pas aimable, et que c'est dégueulasse. Raton laveur, quand allez-vous enfin voir la vie du bon côté ? Un conseil, commencez par soigner votre strabisme divergent. Scorpion, de belles perspectives d'avenir, si vous ne voulez pas devenir le prof de nos enfants, vous pourrez toujours leur servir des frites. Sagittaire,
attention à ce que tu as dit.
Arrêtez d'accuser cette pauvre Vénus pour votre célibat et commencez enfin à vous brosser les dents. Capricorne, étrange hasard, tout vous réussit, mais seulement si vous êtes riche et beau. Verseau, ce matin, la tartine tombe côté confiture, mais ça vous le savez déjà parce que je suis diffusée l'après-midi. Poisson, faites confiance à votre instinct, arrêtez de croire tout ce que les connasses d'astrologues vous racontent.
Merci Madame Soleil, alias Mathilde.
Dans mon horoscope, il y a des chômeurs. Dans mon horoscope, il y a des moches, des très moches. Dans mon horoscope, amour, ça dépend. Travail, ça dépend. Ça dépend des gens.
Florent, c'est quoi ton signe astrologique ?
Alors c'est Verseau.
Ah,
effectivement,
bon.
Ce matin, la tartine a chu. Mais comme j'ai un bar, elle a eu le temps de faire une double rotation, ce qui est prouvé scientifiquement. C'est...
Bon. Alors, la journée avait mal commencé, alors ça continue comment ? Assez traîné, c'est l'heure de ton billet d'humeur.
Alors, Aujourd'hui, je voulais rendre hommage à un grand héros de notre quotidien, l'homme de ces dernières semaines, le saint patron du redressement, l'Ubermensch qui est sur toutes les lèvres, la face d'ange qui a fait bondir l'audience de Public Sénat auprès des ménagères de moins de 50 ans, qui ne sont pas restées insensibles à son impressionnante et vigoureuse verve. J'ai dit verve. Je veux parler bien sûr d'Emmanuel Macron, le chérubin de Bercy, qui perce le cœur de ses flèches d'amour bien plus vite que le fisc ne perce le secret bancaire suisse. Emmanuel qui est si beau qu'à lui seul il faut oublier le furoncle architectural que constitue le ministère des Finances. Emmanuel dont le prénom, rappelons-le, signifie « Dieu est avec nous ». Que dire de plus ? Sinon qu'à votre endroit, Emmanuel, le doute m'habite. Emmanuel, vous êtes beau, vous êtes jeune, vous êtes fringant et sans doute riche. Qu'allez-vous faire dans cette galère ? Le dernier beau gosse du gouvernement ayant été prestement licencié, comment micro-Macron passera-t-il l'hiver alors que celui-ci s'annonce déjà rude pour les nécessiteux ? Au rang desquels tu compteras, Macronet, avec une simple retraite de ministre comme seule poire pour la soif. Mais si ton avenir est plein de nuages, ta loi est déjà entrée dans l'histoire. N'est-il pas amusant à ce propos de constater qu'alors que la rude sexualité de Dominique Strauss-Kahn s'érigeait en reine des gazettes et de l'audimat, le gouvernement est décidé de passer en force avec ta loi. En tout cas, à l'instar de DSK, ta loi est entrée dans les annales. Oh. Au premier abord, c'est sa longueur qui nous impressionne. Oui. Quelle dimension
oui.
209 articles, 185 pages en interlignes simples et police 12 au journal officiel. De la belle ouvrage assurément. Rien ne t'échappe, Emmanuel. Autocar, dimanche travaillé. Tu nous prouves une fois encore que tout est avant tout économique. Mais tu n'es pas seul, Emmanuel. Le message que je veux faire passer au nom des camarades et néanmoins concitoyens interrogés au hasard des réseaux sociaux est avant tout un encouragement à continuer dans cette voie. Nous voulions cependant te suggérer quelques idées pour la loi Macron 2, que certains d'ailleurs suggèrent d'appeler loi Macron le retour ou loi Macron résurrection ou encore Macron reloaded, ce qui sera un peu plus sympathique. Voici quelques-unes de ces idées glanées de ci, de là. Avant tout, les retours m'ont semblé extrêmement positifs sur l'idée de faire passer le permis par les postiers. Il semblerait une bonne idée de systématiser cette démarche, donc taxi, camion poubelle, transporteur de fonds pour être mis à contribution, ainsi bien sûr que les véhicules d'urgence comme les pompiers, le SAMU ou encore les camions blindés du GIGN, qui garantiraient un surcroît de sécurité à l'apprenti conducteur à l'abri du gyrophare. Une proposition particulièrement à même de résoudre les tensions sociétales actuelles serait que la future taxe Google, permettant, rappelons-le, de taxer une entreprise domiciliée à l'étranger sur ses bénéfices réalisés en France, soit appliquée à l'État islamique. Pour chaque djihadiste français embauché, Daesh nous renverrait 10% de ses restes afin qu'il soit inhumé dans les cimetières non encore profanés de notre belle France. Une proposition juste puisque ces jeunes ont profité d'une formation poussée sur notre territoire, qui dans les salles d'interrogatoire des commissariats, qui dans les prisons surpeuplées, acquérant des connaissances fort utiles au moment de gérer efficacement le yézidi agité ou le chrétien récalcitrant.
Rien ne l'arrête, hein.
Un camarade syndicaliste éclairé, enfin, un certain Pierre Gattaz, je ne sais pas si tu le connais, suggérait de simplifier l'accès à l'emploi à temps partiel pour les étudiants en les payant en crédit ECTS. Ce qui leur permettrait de remplacer les cours par des emplois précaires, certes, mais de resserrer les liens entre université et entreprise qui, je cite, « marcheront ainsi, main dans la main et d'un pas joyeux vers un horizon où liberté, flexibilité et emploi sous-payé seront les mamelles du bonheur terrestre. » Je tiens bien sûr d'autres idées à ta disposition et je répondrai avec plaisir et empressement au moindre de tes désirs. Pour finir, je dirais que « mon bel » et « Emmanuel » sont des mots qui vont très bien ensemble et que si j'osais, je te demanderais de m'initier à l'économie sociale-démocrate que tu pratiques si bien façon Fifty Shades. Mais je garde mes fantasmes pour mon analyste et je rends la parole à Marie.
Oui, je préfère ça. Bon, merci Florent. Allez, c'est bien, comme ça on termine cette première heure de façon détendue, certes en retard mais détendue.